Parcours d'artiste.
Entre cirque, danse, théâtre et art visuel, c'est à travers les champs disciplinaires que Justine Bertillot trace son sillon pour créer des formes hybrides où se mêlent les mots, les états de corps et les images, où sens et sensations mènent le récit. Femme en lutte, violence du quotidien, écocide, domination prédatrice, perte du lien au vivant et au spirituel, autant de sujets qu'elle aborde de biais, en ouvrant grand l'imaginaire pour que se déploie un dialogue intime avec le spectateur dans l'ampleur des métaphores. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Justine Bertillot.
Bonjour.
Vous n'êtes pas une enfant de la balle, mais plutôt une gymnaste précoce puisque vous pratiquez ce sport dès l'âge de 6 ans et ce durant 10 ans. Et en 2006, vous êtes à Bourg-en-Bresse, vous avez 18 ans, le bac en poche et vous poussez la porte d'une école de cirque amateur. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous cherchiez derrière cette porte ?
J'avais envie de découvrir l'univers artistique, voilà, j'allais beaucoup au théâtre, etc. Mais j'ai pas eu de pratique artistique toute petite, à part le dessin, etc. Mais là, j'avais envie d'explorer mes capacités physiques avec la scène, voilà. Donc j'ai découvert vraiment ce que c'était de créer d'abord des petits numéros, etc. Mais de se mettre en scène, de s'exposer aussi via le cirque.
Parce que vous étiez quand même passionnée par la gymnastique. Faire 10 ans de gym, c'est pas rien, c'est un entraînement. Donc il y a quelque chose qui vous a tenu pendant 10 ans. Et puis, à manque, la gymnastique, ça vous apportait quoi? Et qu'est-ce qui vous manquait finalement? Vous êtes allée chercher dans les écoles de cirque?
Alors moi, ça me convenait très bien, l'aspect un peu discipline, un petit peu guerrier comme ça. J'avais besoin, je crois, d'avoir des expériences un peu... Enfin, c'est un peu extrême aussi, la gymnastique à très haute dose, à haut niveau. Je passais mes semaines là-bas, donc peu d'amis, peu de loisirs. Voilà, ma vie était vraiment dédiée à ça. Mais ça me plaisait assez, ce côté un peu monacal ou un peu extrême. Et puis après, c'est vrai qu'à l'adolescence, quand le corps change, le corps féminin, c'est très compliqué, puisqu'on doit complètement tout réapprendre. La gymnastique, c'est aussi quand même une vision du corps qui est très contraignante. Donc, quand le corps féminin commence à grandir, à s'exprimer, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Donc, je crois que j'ai arrêté à cette époque-là aussi, où j'avais envie de laisser mon corps s'épanouir différemment, quoi.
Et donc, dans cette école amateur, qu'est-ce que vous faites? Vous faites donc des petits numéros, mais il y a des disciplines particulières qui vous intéressent plus que d'autres?
Oui, alors moi, j'ai la particularité, je me suis rendu compte plus tard avec mes collègues circassiens. Tout de suite, moi, en fait, je suis arrivée, je voulais faire des équilibres sur les mains et des portées acrobatiques. Donc, je n'ai absolument rien appris d'autre. Je ne suis pas montée sur des trapèzes, sur des tissus. Et ça, c'est vraiment très singulier parce que tous mes amis sont passés vraiment par tous les agrès avant de choisir, etc. Et donc, moi, je savais déjà qu'il y avait quelque chose dans la pratique des équilibres de méditatif qui me passionnait.
Une méditation que vous prolongez peut-être par les études, puisque vous enchaînez Cagne-Hippocagne à Besançon, et puis vous obtenez votre licence en philosophie à l'Université de Lyon en 2008. Qu'est-ce qui vous a mené sur le chemin de la philosophie?
Je crois que c'est d'abord un professeur mon professeur de philosophie du lycée de l'époque qui m'a fait rencontrer cette discipline et ça m'a vraiment ouvert tout un monde. Et puis Hippocane-Cagne, j'étais pas forcément, c'est vraiment le professeur qui m'a incité à le faire. Je connaissais pas du tout cette école. C'était deux années magiques, enfin des plus belles de ma vie. J'ai vraiment adoré aussi pareil d'être plongée de ne faire que ça, d'être plongée complètement dans ces études-là. Et puis ensuite, le retour en fac a été plus compliqué parce que plus de temps, le rythme était tellement effréné en classe préparatoire que je me suis un petit peu ennuyée en faculté, même si je passais ma vie à la bibliothèque pour combler. Et puis, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose aussi dans la manière dont c'était enseigné. J'avais envie de découvrir aussi des choses par le corps. Je me disais qu'en étudiant la philosophie, je me suis dit que ça manquait aussi dans notre culture et dans notre façon de penser le monde. Et donc, j'ai fait le virage d'aller voir ce qui se passait.
Mais donc, vous êtes une grande lectrice et vous aimez les mondes imaginaires que nous ouvrent les auteurs et les autrices.
J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé lire. J'ai une enfance très solitaire, donc je me suis réfugiée beaucoup dans les livres. Ensuite, quand j'ai intégré l'école de cirque, j'ai, j'ai, J'ai essayé de faire frotter un petit peu les textes à ce que je faisais. Je me suis rendu compte que c'était déjà c'était compliqué à faire, mais ça a toujours été là, ouais.
Donc, en 2009, vous avez votre licence en poche et vous vous lancez dans une formation professionnelle d'artiste de cirque puisque vous rentrez à l'École nationale des arts du cirque qui est basée à Rosny-sous-Bois comme voltigeuse. Vous y rencontrez votre binôme, le porteur Frédéric Vernier. Et puis, 2 ans après, en 2011, vous intégrez le Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Vous êtes de la 25e promotion. Quel fut votre chemin artistique, votre cheminement, vos recherches qui vous a animé durant ces années de formation ?
Ça a été un petit peu entre le duo qu'on a formé tout de suite avec Frédéric Vernier et moi, mes envies personnelles, puisque chacun on avait un univers artistique très différent aussi par ailleurs, même si on se retrouvait et ça a mené à un spectacle ensemble à Nous, mais c'était de concilier un petit peu de me chercher moi en tant qu'artiste déjà seule et puis en même temps de chercher ensemble avec lui. Donc j'étais un petit peu à osciller entre ces deux chemins-là. Mais je dirais que même avec Frédéric, quand même, il y avait aussi le souci de raconter des choses avec le corps. On avait quand même ce goût-là pour la danse, pour essayer de chorégraphier des gestes. Donc ça a été vraiment quand même la direction tout de suite assez chorégraphique, on va dire.
Vous menez aussi une recherche sur le geste. Les portes acrobatiques sont assez codifiées avec des figures, etc. Et dans ce qu'on va pouvoir effectivement voir dans Nous, qui est un duo que vous créez en 2005 avec Frédéric Vernier, c'est une toute autre façon d'appréhender la gestuelle acrobatique. Qu'est-ce qui vous a amené à cette recherche et comment vous qualifieriez finalement cette singularité artistique que vous avez construite ?
Je dirais qu'il y a peut-être deux choses. Il y a d'abord, je crois qu'on n'avait pas tout à fait les corps faits pour cette pratique ensemble. Bon, là, il y avait quand même une grande différence de poids, mais Frédéric était très grand et moi, je suis assez petite. Mais quand même, on n'avait pas tout à fait les physiques, puisque dans les arts du cirque, c'est vrai que selon les disciplines, il y a des physiques vraiment très définies qui sont soit naturelles, soit qui se construisent. Et c'est vrai que nous, ça nous a aidés, en fait, parce qu'on a comme été obligés de chercher aussi ailleurs et pas seulement dans la pure technicité. Et puis ensuite, on a eu la chance, donc au CNAC, à cette époque-là, d'avoir beaucoup de chorégraphes qui nous ont accompagnés. Et c'est ce qu'on cherchait. Et ça nous a vraiment ouvert des manières de faire et de penser cette discipline. Nous, on a tout de suite voulu aller un peu contre. On s'est dit, c'est quoi ? C'est en cherchant quelle était l'essence de la discipline, qu'on avait eu envie de la déconstruire un peu. Et donc, on s'est dit, essayons de faire des portées avec des corps plus relâchés, des corps qui économisent, des corps moins en force. Donc, ce qu'on appelait après le mou, mais d'avoir un corps relâché, une certaine mollesse, autant pour lui que pour moi. Et donc, on a essayé d'explorer cette discipline-là qui, normalement, est très, très en force quand même.
Très tonique.
Très tonique.
Voilà, les corps sont complètement gainés, c'est presque des bouts de bois, on va dire.
Complètement. La voltigeuse, normalement, l'apprentissage, c'est d'apprendre à ne pas bouger, à ne pas chercher, comme on dit, l'équilibre. Donc, on a essayé de faire autrement et on a poussé cette recherche vraiment à l'extrême, ce qui a mené à cette pièce Nous.
Alors dans Nous, si on relit la note d'intention, vous écrivez que c'est une réflexion sur les portées sur la nature humaine et vous poussez en disant « moins on donne à l'imagination, plus elle s'active », c'est-à-dire
on a vraiment créé un travail chorégraphique formel d'abord. Donc on a cherché vraiment à inventer des manières de se porter, des nouvelles figures de cirque, etc. Et donc, c'est vraiment passé par le formel. Et ensuite, du formel, disons qu'on a pu tisser, en fait, ce propos dont cette chose qu'on voulait évoquer ensemble, c'est vraiment c'est cette dynamique énergétique entre, dans un duo, entre les êtres qui fait qu'on donne, on reçoit, comment on porte l'autre, comment... Voilà, toutes ces dimensions métaphoriques. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas basé notre écriture sur comment raconter ça, mais vraiment sur une recherche formelle. Et je crois qu'ensuite, oui, il y a plus de place, je crois, à l'imaginaire. C'est cette histoire-là, elle était très dans la réception, elle était très ouverte. Il y a des gens qui voyaient une histoire d'amour, d'autres des violences conjugales.
C'est la force de la métaphore que de solliciter très fortement l'imaginaire de celui qui doit compléter.
Ouais, complètement. C'est le public ensuite avec sa sensibilité qui, moi, j'aime beaucoup ces écritures.
2015, c'est aussi une année importante parce que vous rencontrez l'autrice Pauline Peyrade grâce à Daniel Larieux qui vous invite à créer une forme courte pour le sujet à vif au Festival d'Avignon. Ce sera Est. Qu'est-ce qui a matché entre vous? Où est-ce que vous êtes rencontrée avec Pauline Peyrade?
Alors, on a reçu toutes les deux l'invitation séparément. Et puis, Pauline est tout de suite venue au Centre National de la Danse à Paris voir les premières de Nous, donc ce spectacle dont on parlait auparavant. Je rapporte ses propos, mais voilà, elle, en le voyant, en tout cas, elle a vu comme une évidence dans le geste. Et puis moi, j'ai lu Bois impériaux qu'elle avait écrit. Et pareil, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son écriture. Et c'est là où on s'est décidé chacune séparément à se dire oui, on a envie de se rencontrer. Donc c'est d'abord par nos œuvres.
Bois impériaux, c'est donc une pièce qu'elle a écrite, c'est une sorte de road movie nocturne, etc. C'est un univers très particulier. À quel endroit, vous, ça vous a finalement parlé, ému, touché? Qu'est-ce que ça a remué finalement pour que vous vous disiez, là voilà, il y a un endroit où on peut se retrouver?
J'ai beaucoup aimé la langue. Dans l'écriture, il y a aussi quelque chose de... C'est brut et en même temps, c'est très ciselé. Et je crois qu'il y a aussi dans son écriture que j'ai tout de suite reconnu, il y a quelque chose de l'ordre du trouble. C'est toujours, il y a toujours un endroit de... C'est un peu comme cette chose avec le spectateur qui remplit. J'ai l'impression que dans l'écriture de Pauline, il y a aussi quelque chose qui est donné, mais qui est toujours un peu trouble. Et ça j'ai reconnu quelque chose.
Il y a une grande liberté d'interprétation du spectateur. Tout n'est pas donné, il y a une part d'inconscient, au fond,
complètement,
qui va se déployer et qui va prendre forme avec l'interprétation que va lui donner le spectateur.
Ouais, c'est très juste, ouais, cette part d'inconscient. Ouais.
Alors, c'est une collaboration. Collaboration qui s'installe dans la durée. Donc il y a Est avec cette première forme, puis vous confondez une compagnie ensemble, vous poursuivez avec la création d'une seconde pièce qui s'appelle Point, c'est en 2017, puis ensuite il y a Carrosse en 2019, et là tout récemment, L'âge de détruire, d'après le roman éponyme qui a obtenu prix Goncourt du premier roman. Donc c'est une collaboration qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit aussi sur une thématique forte, me semble-t-il, qui est celle de la femme, et pas n'importe quelle femme, des femmes en lutte.
Au-delà des artistes que nous sommes, il y a quelque chose aussi dans nos vies qui traverse nos œuvres et qui nous intéresse de manière réciproque. C'est vraiment l'émancipation aussi des femmes, et puis le rapport à la violence. Et donc, ce que Pauline trace dans son écriture, c'est aussi ce dont on s'empare dans les spectacles. Donc, d'essayer d'imaginer des œuvres, des spectacles qui racontent aussi ces parcours de femmes en lutte. C'est vraiment nécessaire de les porter aussi au plateau. C'est pas tout à fait pareil que les œuvres littéraires, mais voilà, ça fait 9 ans qu'on essaye de porter ça au plateau, de chercher comment on expérimente comment se faire rencontrer la littérature et le mouvement. À chaque création, on se déplace un petit peu, mais en tout cas, notre endroit de travail est souvent le même.
C'est un engagement fort, et dans la forme également, puisque ça n'est effectivement pas une juxtaposition de parties dites, et puis de parties qui sont plus corporelles, mais on est vraiment sur une écriture croisée, une narration hybride. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le processus de travail, finalement, pour arriver à ce que ça ne soit pas trop plaqué l'un sur l'autre, mais qu'on arrive à cette organicité, finalement, de deux modes d'écriture et de deux modes de narration qui ne sont pas forcément faciles à combiner, l'un étant plus narratif, descriptif, etc., et l'autre, on l'a vu dans votre travail auparavant, plus métaphorique.
C'est un travail qui nécessite énormément d'aller-retour entre nous. Dans le processus de travail, souvent, moi, je lis avant que ce soit achevé. Souvent, Pauline, j'ai la chance de pouvoir lire les textes en cours. Donc, je lis. À partir de là, moi, quand je lis, il y a souvent des espaces qui me viennent, des images de scénographie ou alors d'objets avec lesquels je sais que je pourrais chorégraphier, qui font sens. Ensuite, on parle un petit peu de ça. Et puis ensuite, moi, Parfois, c'est assez instinctif. Hein. Il y a une phrase où je me dis « Ah, à partir de cette phrase-là, je peux raconter quelque chose qui n'est pas dit dans le livre. » Et puis ensuite, une fois que les envies, enfin voilà, les propositions chorégraphiques sont un petit peu élaborées, du coup, bah, on se demande du texte ce qu'il faut garder. Donc là, on réfléchit sur l'adaptation textuelle pour le plateau.
Pour éviter les redondances, les redites, là
voilà,
où le corps
ça.
Et finalement le geste serait raconterait la même chose, quoi.
Complètement. Et ensuite, voilà, après dans le travail du corps, la difficulté c'est d'allier un travail formel plus abstrait, donc qui n'existe pas dans le livre, et en même temps quand même de porter le drame, le récit, quoi.
Vous parlez de chorégraphie, mais ce n'est pas seulement de la chorégraphie, parce qu'il y a aussi une gestuelle acrobatique qui passe par une déformation du corps, ou en tout cas des postures qui sont au-delà du mouvement, qui vont aussi travailler sur la figuration du corps.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est un élément aussi qui est important dans votre processus de rencontre? C'est-à-dire cette façon de travailler une gestuelle qui ne va pas être ni jolie, ni, mais qui va vraiment travailler une autre figuration de la corporéité?
Oui, par exemple, pour l'âge de détruire, vraiment, moi, j'ai comme senti dans mon corps l'état de la mère face à l'emménagement, ce moment où on doit se mettre en action et qu'on ne peut pas. Donc ça, par exemple, c'est un état duquel je peux m'emparer pour travailler ensuite chorégraphiquement. Donc souvent, en effet, c'est très lié à ce qu'on appelle des états de corps, en fait. Aussi des émotions qui se traduisent visuellement par un corps qui bouge d'une certaine façon, qui réagit d'une certaine façon.
C'est un aspect que vous avez travaillé aussi dans d'autres créations. Notre forêt en 2020, où vous vous intéressez à cette créature brésilienne mythique, la Curupira, qui va donner donc lieu à tout un travail très animal aussi, dans votre façon de vous mouvoir, dans ce que vous pouvez proposer presque à la limite de l'humanité, qui disparaît dans un corps, ou en tout cas un corps qui passe de l'humanité à l'animalité. Puis il y a aussi cette collaboration avec Mossi Espinoza. Vous avez créé On ne fait pas de pacte avec les bêtes, c'est en 2023. Et là aussi, il y a une recherche d'hybridité, non plus seulement entre le texte et la gestuelle circassienne, mais également avec toute une scénographie, une grammaire visuelle qui est très importante. Vous parlez même de jungle opératique. Alors,
oui.
Comment est-ce que on aborde ces dimensions de la création, c'est-à-dire le dialogue entre ces différents outils, ces différents langages finalement?
Bah, c'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon, mais des dramaturgies plurielles. Mais c'est vrai que c'est le cas dans notre forêt où il y a une installation plastique aussi, et dans On ne fait pas de pacte avec les bêtes, donc il y a une scénographie très imposante aussi. Et c'est pas des décors chez moi, c'est vraiment ils font sens, ils font vraiment partie de la dramaturgie. Alors des fois ça travaille avec, des fois en paradoxe, des fois le décor ne ressemble pas du tout à l'endroit dans lequel la fiction prend lieu. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec la scénographie qui est très importante aussi dans mon travail. Ça peut aller de petites formes comme notre forêt in situ à On ne fait pas de pacte avec les bêtes qui prend des gros plateaux, etc. La scénographie, c'est comme, voilà, comme dans L'âge, j'ai vu un espace aussi. Ça vient très tôt dans mon travail.
C'est-à-dire que vous pensez l'espace au moment de la lecture, il y a des images qui viennent et ça devient comme un partenaire de jeu.
Oui, bah, en fait, ça vient raconter quelque chose. Par exemple, dans notre forêt, c'est une forêt de plastique. Je voulais clairement pas avoir une forêt faite de textile ou naturel. Je voulais dire, justement, la forêt qui n'est plus ou qui est remplacée par le plastique. Donc ça pose déjà un discours, ça pose déjà quelque chose. Et dans On ne fait pas de pacte avec les bêtes, donc là, on a joué aussi avec, puisqu'on s'est aussi inspiré du cinéma de Werner Herzog, du Fitzcarraldo notamment. Donc, on s'est inspiré entre le côté opéra, l'opéra, et puis la jungle. Et ça aussi, c'est une manière de faire sens entre, enfin voilà, cette rupture entre l'Occident et l'Amérique latine, entre l'Europe et le Pérou. Donc c'est un décor qui est complètement déréalisé, mais en tout cas qui convoque deux mondes qui s'entrechoquent, quoi, finalement. Et donc là, on les rassemble au plateau. Les décors racontent toujours quelque chose et c'est des points de départ souvent, oui.
L'écriture de cirque se déploie très souvent à partir d'agrès qu'il faut installer, désinstaller. Donc, il y a voilà, tout un rituel, tout un appareillage aussi qui a parfois du mal à, à trouver une place dans la scénographie, dans la narration, dans l'univers fictionnel. Comment est-ce que vous, vous abordez justement ces questions-là? Comment finalement, vous essayez de créer des situations de jeux qui vont permettre au corps circassien de déployer sa gestuelle.
Mais alors moi, je travaille vraiment souvent avec des objets du quotidien, en tout cas des objets qui pourraient potentiellement être utilisés dans la vie de tous les jours, qui sont assez simples finalement. Dans Point, par exemple, il y avait cette errance cauchemardesque dans l'univers mental du personnage principal. Et donc m'est venue l'idée des rollers, voilà, c'est comme un peu cette poupée qui tourne en rond dans cette boîte à musique et qui est en plein cauchemar en train de tourner en rond. M'est venue les rollers pour sa capacité à, oui, d'errer, quoi, de laisser un corps tourner en rond. Dans Est, pour le sujet à vif à Avignon, tout de suite, il s'agissait d'une relation toxique. M'est venue l'idée d'une planche à clous, parce qu'il y a quelque chose, ça brille, d'hyper attirant, et en même temps, si on s'y frotte, on s'y pique. Donc il y avait ce phénomène d'attraction répulsive qui me paraissait juste par rapport à la relation qui était racontée. Donc souvent, ça vient de qu'est-ce qu'il faut dire, et ensuite me vient quelque chose. Et dans L'âge de détruire, c'était ce mur à défoncer, en fait. Enfin, y avait quelque chose à... une violence qui devait s'exprimer, donc c'était ce mur.
Au fond, il y a comme une translation, c'est-à-dire vous revenez à l'essence même du propos, ouais, au cœur, et après vous allez trouver une forme qui va le déplacer, parce que c'est une forme aussi qui s'exprime à travers un autre langage artistique, ouais, les arts visuels, la scénographie, etc., des objets, mais qui vont pouvoir porter, encore une fois, cette dimension métaphorique, finalement, que vous cherchez à travers les créations que vous proposez.
Oui, l'idée, c'est Bon, quand il y a un rapport au texte, en tout cas, c'est de toujours, c'est de ne pas raconter exactement l'action qui est dite, sinon d'essayer de la transposer, de transposer une énergie, de transposer ce qu'elle raconte avec d'autres choses, des objets ou des corps.
Nous parlons de la dimension métaphorique, mais il y a donc dans vos créations en binôme avec Pauline Peyrade ou avec d'autres artistes ou dans vos solos, une dimension très ancrée dans le réel, un engagement assez fort. À partir de quel matériau du réel vous travaillez pour nourrir ces créations, par exemple sur les deux que vous avez proposés sur l'Amazonie, c'est-à-dire notre forêt, et puis on ne fait pas de pacte avec les bêtes. D'où part en fait le propos?
Je crois que ça part tout simplement de choses qui me traversent, qui me bousculent profondément, qui me font question, que j'ai des fois que j'ai envie de résoudre ou de dépasser. Ou ça me dépasse un petit peu. C'est pas j'ai jamais choisi. En tout cas, je suis jamais rentrée dans un spectacle avec un sujet, je dirais, en me disant « Ah, j'ai envie de travailler de manière intellectuelle ou théorique cette question-là ». Ça passe plus par l'inconscient de choses qui... Voilà, à un moment, il faut que je le fasse. J'ai une nécessité à me frotter à tel ou tel sujet. L'Amazonie, c'est moi aussi qui m'a fait rencontrer ce territoire. C'est vraiment un monde complètement différent. Et ça m'a vraiment... bousculer, changer moi aussi ma manière de percevoir le monde.
C'est-à-dire ?
Je ne me rendais pas compte de ma culture française, que j'étais si française, où je pensais que des fois c'était vraiment une subjectivité. Et là, ça m'a aidé à ouvrir. Je me suis dit non, en fait, c'est aussi nous, on a quelque chose comme ça dans notre manière de voir le monde. Et...
C'est-à-dire que l'universalisme dont on se prévaut n'est pas aussi universel que ça ?
Un petit peu, ouais, je crois. Et même les Péruviens de Lima, par exemple, vont dire que l'Amazonie, c'est quelque chose de complètement autre. Et donc, il y a quelque chose dans cet autre qui est de percevoir, en fait, nos propres limites aussi, de percevoir qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on n'arrive pas à tout à saisir. Et puis, c'est un endroit où il y a quelque chose de très beau aussi dans la manière de vivre avec la nature, enfin vraiment de l'entendre, de vivre avec, de parler avec constamment et que nous, on n'a pas. Donc, il y a aussi quelque chose, une mise en perspective aussi sur ce qui peut nous manquer ici. et une ouverture aussi qui me paraît nécessaire, quoi. Donc, après, c'est passé aussi l'Amazonie. C'est, encore une fois, c'est passé vraiment par le corps. On a fait des cérémonies, etc. Donc, c'est pour ça que ça crée un solo, notre forêt chorégraphique. Mais c'est vraiment des sensations, je crois, qui s'inscrivent dans le corps, qui s'inscrivent dans l'inconscient, dans le cerveau. Et ensuite, moi, à un moment, ça...
C'est une dimension, on va dire, sacro-magique que notre cartésianisme
oui, tout à fait.
européen nous a fait mettre de côté et qui finalement peut-être nous leste hein, sur, mm-hmm. Sur le réel, le réalisme, le matérialisme.
Ouais, oui, c'est vraiment des choses que je pense qu'on a, je ne sais pas si perdu, mais en tout cas qui... Je crois profondément qui nous manque.
Vous parlez de la discipline du cirque, la discipline de la gymnastique autrefois, la discipline du cirque maintenant, de cet engagement qui a été le vôtre aussi complet dans la littérature. Il y a quelque chose quand même dans votre parcours qui est un peu comme d'une quête, qui va prendre différentes formes, qui va essayer de rassembler ce qu'on sépare habituellement, c'est-à-dire le corps et l'esprit.
Mmh,
cette quête spirituelle, elle se fait aussi par... les sensations, ce que vous ressentez par le corps.
Oui, oui, complètement. Il y a quelque chose. Ben, enfin voilà, le chemin, le rapport à la philosophie, il est très clair. Je le cherche au plateau. Enfin, voilà, il y a des choses qui me traversent et puis j'ai besoin de trouver de chercher avec les autres aussi. Et vraiment, il y a une corrélation de corps et d'esprit à laquelle je crois que je vraiment que j'ai envie de défendre aussi, puisque quand on parle de l'Amazonie aussi, voilà, c'est un endroit où qui est organique. Et c'est vrai qu'ici, ce qui me manquait dans mes études universitaires, c'était vraiment aussi cette pensée du corps aussi. J'ai vraiment profondément la foi que le corps a mille réponses et le corps sait et qu'il est complètement connecté avec l'esprit. Donc c'est aussi ce que j'essaye de faire et dans mon protocole de travail aussi, c'est que je cherche avec le corps, en même temps je cherche de manière très théorique et tout ça doit se relier, doit se connecter.
Et comment on partage cette expérience du monde finalement avec le public ?
Bah, dans notre forêt, ça a été vraiment, c'est vrai, pensé aussi... pour nous, ici. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de cette forme in situ qui donne à voir nos espaces de vie, d'entendre l'Amazonie et de la voir dans
oui,
mon corps.
Parce que c'est sous casque, hein, c'est un
sous
spectacle
casque.
Immersif. Et pour donner quelques éléments, on est dans cette scénographie de plastique. Moi, je l'ai vu, c'était dans un parking souterrain, donc dans un univers extrêmement bétonné. Et donc, il y avait un énorme contraste entre ce qui nous parvenait par l'univers sonore, composé de bruits de forêt, de chants d'oiseaux, de bruissements, etc. Et puis, la vision que nous avions de notre réel qui était réduit à cet amas de béton.
Oui, oui, tout de suite, c'est comme la scénographie dont je parlais. J'ai voulu le jouer dans des espaces de vie dans les nôtres, quoi, plutôt bruts aussi, industriels, etc. De ne pas aller le jouer en forêt, mais du coup, de créer un paradoxe entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et c'est aussi pour raconter enfin voilà, ce qui nous manque, encore une fois, dire bah, oui, là, c'est un parking, il n'y a pas d'animalité, il n'y a pas de végétation. Mais pourtant, en vrai, c'est ici, c'est pas loin. Mais du coup, c'était aussi de faire frotter. Je travaille beaucoup aussi, c'est le cas dans Ne fais pas de pacte avec les bêtes, à contredire aussi des choses, à faire frotter oui, des mondes, encore une fois. Donc, notre forêt... J'avais envie que quand même les gens soient comme chez eux, mais que la Curupira, cet être, cette créature de la forêt, vienne un petit peu prendre vie dans nos espaces de vie urbains, ex-modernes, etc. Et dans On ne fait pas de pacte avec les bêtes, c'est un petit peu différent, parce que je crois qu'on s'est dit... qu'on n'allait pas tout donner, donc c'est un spectacle qui est assez exigeant. Il y a beaucoup de symboles aussi qui viennent de la culture sud-américaine. C'est vraiment un spectacle franco-péruvien. Il y a des zones de qui ne sont, enfin, tout n'est pas donné si on ne connaît pas l'histoire du Pérou ou la culture sud-américaine. On est vraiment dans le symbolique. C'est pas du tout didactique. Donc je pense que c'est plus curieux à appréhender. Mais ça aussi, c'était un choix aussi de créateur, c'est-à-dire que l'Amazonie, enfin voilà, même si Mossi est péruvien, il n'est pas né en Amazonie non plus, et donc voilà, c'est une manière, on va pas raconter l'Amazonie, c'est pas à nous de le faire, en tout cas pour ma part, ce n'est pas à nous de le faire.
Oui, ce serait de l'appropriation culturelle.
Ça serait de l'appropriation culturelle, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est pour ça que c'est un spectacle impressionniste, avec des images comme ça, un peu puzzle dans l'écriture. C'est une sorte de témoignage aussi de sensation de ce qui nous a traversé. C'est nous là-bas, en tant que Française aussi là-bas, l'histoire de la colonisation, etc. C'est pour ça qu'il y a les personnages du Fitzcarraldo ou d'Aguirre, qui sont donc des conquérants, des colons, qui sont évoqués dans le spectacle. Il y a des traces aussi de ce qu'on a pu, des habitants, d'histoires qu'on nous a racontées, mais qui nous sont revenues comme ça. On n'a pas voulu travailler avec ce qu'ils nous ont donné de manière première, mais ça s'est inscrit dans nos mémoires, dans les corps. Donc on a travaillé vraiment aussi en sensation, et c'est vraiment notre sensation à nous. Donc c'est en ça que c'est un spectacle impressionniste, et c'est pas du tout un spectacle didactique qui vient raconter ce que serait l'Amazonie. Moi, je les laisse.
Parce que vous vous intéressez à des sujets très politiques, la situation de l'Amazonie, situation sociale, situation politique, qui est quand même très, très dure. Vous attaquez aussi à sujet des violences faites aux femmes, violences faites aux enfants dans L'âge de détruire. C'est une mère et sa fille, on les voit à deux âges. Dans un premier temps, Elsa est petite et on devine qu'il y a une relation toxique, qu'il y a une relation de violence entre sa mère qui est en même temps totalement débordée, désespérée, etc. Et puis ensuite, on la retrouve quand elle est adolescente. Donc ce sont des sujets très ancrés dans la société. Et en même temps, votre façon finalement d'être politique, c'est ne pas être didactique, mais ouvrir des brèches d'imaginaire, réouvrir des possibles, c'est ça votre endroit?
Oui, les spectacles pour moi, ils sont là pour bousculer, pour poser des vraies questions. Enfin, en tout cas, j'aime avoir des vrais partis pris au plateau. Par contre, je crois que mes spectacles, ils donnent pas une réponse ou il y a pas quelque chose de... Non, le didactisme, c'est vraiment quelque chose qui me parle pas. Il y a quand même des choses qui s'affirment, puisqu'évidemment, enfin, porter L'âge de détruire avec Pauline, ce roman-là, c'est un geste profondément politique. C'est aussi comment rendre partageable des vies traversées par l'inceste. C'est en faire sujet de société que de l'adapter au plateau. Et c'est un peu pareil pour les violences faites face à la nature, enfin la domination, l'extractivisme, etc., qui est traité dans les autres spectacles. Quand même si c'est pas didactique, il y a quand même un geste, on ne fait pas de pacte avec les bêtes, c'est quand même un grand geste décolonial qui peut-être heurté aussi, quoi. Donc, c'est politique, mais en effet, je crois que je passe par l'abstraction et de laisser aussi la liberté. Je crois qu'on peut faire des sortes de... On peut bousculer les cœurs et les corps et faire des coups de poing, mais sans...
Écrabouiller le spectateur avec son propre point de vue,
ouais,
c'est ça ?
Oui, complètement, tout à fait.
Il faut laisser ouvert. Vous avez aussi, de spectacle en spectacle, une exploration de formes différentes. Donc, par exemple, sur L'âge de détruire, on est sur, non pas une lecture, on n'est pas sur un spectacle, on est un petit peu entre deux, vous appelez ça une lecture-action.
Oui.
Là aussi, c'est un moteur pour vous, dans votre cheminement d'artiste, que d'expérimenter finalement différentes propositions à partager avec les spectateurs.
Complètement. Mais je crois profondément que les langages peuvent vraiment se compléter. Et je crois qu'ils peuvent amener à des lectures plus complexes. Je crois que ça amène aussi de la complexité quand les langages se répondent de manière... quand ça marche, on va dire. Je crois que ça peut créer des œuvres plus complexes. Et ça m'intéresse. S'il y a quelque chose de l'ordre du relief, de la réception qui crée d'autres choses. Et je crois que l'hybridité... je crois que chaque spectacle a sa forme aussi. Et ça m'intéresse vraiment énormément de trouver aussi les formes de chaque spectacle. Et c'est des nécessités, hein, parfois aussi... Par exemple, dans On ne fait pas de pacte avec les bêtes, on est tous les deux circassiens, mais on avait besoin de mots aussi pour le symbolisme du décor ou toutes nos partitions physiques, c'est très physique, mais on avait besoin aussi de poser des mots pour baliser, pour le parcours du spectateur, etc. Donc aussi, chaque spectacle appelle une forme, je crois. Et là, oui, la lecture-action, c'était vraiment aussi nous, en tant que créatrice, d'assumer nos langages aussi de manière plus brutale, de pas faire théâtre, d'être à la frontière des choses aussi. Et ça, c'est quelque chose que aussi je revendique, puisque j'ai l'impression, c'est vrai qu'on est très étiqueté, etc., en France, et je trouve ça, en tout cas, je sais pas, mais pour les spectatrices, je trouve ça intéressant de aussi les bousculer un petit peu dans la forme, mais qu'est-ce que c'est de c'est ça, j'aime faire ça aussi, ouais.
Et finalement, alors, quelle serait votre étiquette,
hein? Oh là là, c'est dur de s'auto-dire. Oui, ça, je le laisse pour les autres.
En tout cas, fondamentalement, une acrobatie dans toute la portée de figuration, défiguration, et puis toute la portée aussi d'emmener dans d'autres mondes grâce à ces corps qui n'ont plus forme humaine, justement.
Ouais, qui sont connectés à d'autres choses, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du multidimensionnel, voilà. Changer de dimension, ouais.
Changer de dimension, eh bien, nous allons essayer de le faire avec vous. Merci beaucoup, Justine Bertillot.
Merci beaucoup.